On accueille la rédaction de France Culture pour le journal et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Le Moyen-Orient plus que jamais au bord du précipice.
Après que l'Iran a lancé samedi dernier la première attaque directe de son histoire contre le territoire israélien en représailles à une frappe meurtrière menée contre son consulat à Damas, les craintes d'une escalade supplémentaire des violences régionales se multiplient en marge de la guerre toujours et encore dans la bande de Gaza. Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. On parlera également d'un autre conflit assez largement oublié, celui-ci, la guerre civile au Soudan, éclatée il y a un an jour pour jour. L'actualité en France, cette fois-ci, c'est notamment le compte à rebours avant les Jeux Olympiques et cette question, la cérémonie d'ouverture se tiendra-t-elle comme prévu sur la scène? Enfin, avec notre invité aujourd'hui, la chercheuse et océanographe Julie Déhaye, on évoquera le réchauffement des mers et ses conséquences sur le climat. Une guerre totale au Moyen-Orient est-elle inévitable après que l'Iran a lancé ce week-end des centaines de projectiles contre Israël en représailles à l'attaque contre son consulat à Damas? Les spéculations vont bon train, alors les plus optimistes retiendront que depuis 6 mois déjà que l'hypothèse que la guerre à Gaza ne conduise à une conflagration régionale dévastatrice est avancée, jamais celle-ci ne s'est encore vérifiée. Ensuite, c'est vrai que la riposte de Téhéran semble avoir été stratégiquement calculée pour éviter justement une réelle escalade régionale en laissant la possibilité à Tel Aviv et à ses alliés d'intercepter les projectiles avant qu'ils n'atteignent leur cible. Il n'en reste pas moins qu'en sortant officiellement de l'ombre cette guerre larvée entre Israël et l'Iran, les événements de ce week-end constituent un vrai tournant. À tout le moins, la confrontation entre les deux ennemis jurés est-elle entrée dans une nouvelle dimension? Et désormais, la question qui brûle toutes les lèvres est de savoir quelle sera la nouvelle réponse de l'État hébreu. Sera-t-elle mesurée ou pas, dirigée contre la République islamique ou sur des théâtres voisins? Enfin, le gouvernement israélien prendra-t-il le risque de contre-attaquer sans l'appui de son allié américain? Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Alors pour l'heure, les États-Unis ont réussi à calmer les esprits, à dissuader l'État hébreu de surenchérir dans cette région toujours plus agitée. Pour autant, on imagine assez mal qu'Israël ne riposte pas à plus ou moins long terme. Quels sont, Thibault, les différents scénarios possibles?
Eh bien écoutez, à la mi-journée, toutes les options sont sur la table. La première consisterait à tout simplement écouter le grand frère américain. Le président Joe Biden demande à son allié de considérer les interceptions des 350 drones et aéronefs iraniens samedi dernier comme une victoire, une sorte de démonstration de force, et donc de s'abstenir de répliquer. Ce n'est pour le moment, vous l'avez dit, pas la tendance, et notamment dans le cabinet de guerre où l'idée d'une riposte fait consensus, là où les ministres n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce sont sur les modalités et sur l'échéance. Israël pourrait frapper directement le territoire iranien, des installations militaires par exemple, un scénario défendu par la droite la plus extrême. Autre possibilité, plus modérée, une réponse coordonnée avec une coalition internationale destinée à légitimer les choix d'Israël. Et puis il y a aussi l'idée de faire payer au Hezbollah, la milice chiite mandatée par l'Iran au Liban, le coût de l'offensive de Téhéran. L'ouverture d'un nouveau front, donc défendu depuis de nombreuses semaines par l'état-major et la majorité de l'exécutif, et qui doit aboutir au retour dans le nord du pays de plus de 60 000 déplacés israéliens.
Alors on a bien compris que la question n'est pas de savoir si Israël va agir ou non, mais plutôt quand et surtout comment, d'autant peut-être que ces derniers événements, Thibault, offrent finalement au gouvernement israélien une double opportunité. D'une part, détourner l'attention des massacres qui se déroulent à Gaza et d'autre part, sortir d'une forme d'isolement diplomatique.
Oui, en effet, hein, la combinaison des différents systèmes de défense anti-aérienne samedi soir a créé une coalition de circonstances autour d'Israël, avec donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, mais aussi la Jordanie et peut-être même l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Une alliance occidentalo-arabo-sunnite autour d'Israël et contre l'Iran, qui sort temporairement l'État hébreu de l'isolement, car depuis plusieurs semaines, Israël est clairement au banc des nations. Accusation d'incitation au génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice, refus d'appliquer une résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu temporaire. Avec l'attaque de samedi soir, les alliances dans la région sont beaucoup plus claires. On sort en quelque sorte de l'ambiguïté stratégique. Et puis l'autre conséquence, c'est la situation dramatique à Gaza et plus généralement la question palestinienne qui repasse au second plan.
Une dernière question, Thibault. Est-ce qu'il faut en déduire que, d'une certaine manière, cette attaque de l'Iran sert les intérêts de Benjamin Netanyahou ?
Ah, c'est clairement une éclaircie hein, dans le bilan bien noir du Premier ministre depuis le 7 octobre, pointé du doigt pour avoir autorisé le Qatar à financer le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Benjamin Netanyahou est aussi comptable des failles sécuritaires le jour du massacre. Il est accusé de continuer la guerre à Gaza pour sauver sa coalition, conserver le pouvoir, échapper à la justice et par conséquent abandonner les otages dans l'enclave. Sa popularité est au plus bas. Mais pour la première fois, l'attaque de samedi soir, eh bien, lui donne raison, car depuis 1996 et son premier mandat, l'inamovible Premier ministre n'a cessé d'alerter sur la menace de Téhéran, s'opposant notamment au traité de 2015 sur le nucléaire civil iranien, et puis en montant une coalition avec des pays arabes sunnites dans le cadre des accords d'Abraham pour s'opposer à l'influence de Téhéran. Enfin, à son crédit, il y a aussi le dôme de fer qu'il a contribué à financer et à améliorer depuis l'installation de la première batterie de défense anti-aérienne. C'était il y a 13 ans. 99% d'interceptions dans la nuit de samedi à dimanche selon l'armée israélienne. Et donc seulement 9 missiles sur 350 drones et aéronefs passés entre les mailles du filet.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Alors malgré ce coup de semonce de la part de la République islamique, l'État hébreu poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. L'attaque iranienne ne la fera pas dévier de ses objectifs face au Hamas, a prévenu hier soir l'armée israélienne, qui a également annoncé l'envoi dans les prochains jours de 2 brigades de réserve supplémentaires pour combattre dans le territoire palestinien assiégé, et ce malgré les multiples mises en garde de la communauté internationale qui redoute un bain de sang parmi les centaines de milliers de déplacés massés dans le sud de l'enclave.
Là-bas, la guerre a jeté sur les routes plus de 8 millions de civils.
Là-bas, c'est le Soudan, pays dévasté de la corne de l'Afrique et confronté depuis un an, jour pour jour, à un conflit meurtrier, aujourd'hui assez largement oublié. C'est donc avec l'espoir justement de réveiller la mobilisation sur cette crise aux conséquences humanitaires catastrophiques, famine, massacre ethnique, violence sexuelle, mais aussi au risque géopolitique majeur qu'une conférence internationale s'est ouverte ce matin à Paris. Gwendal Lavina, bonjour.
Bonjour.
Alors, il s'agit d'une réunion politique à huis clos pour obtenir des financements et bien sûr parler processus de paix.
Oui, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, son homologue allemande, Annalena Baerbock, ainsi que Josep Borrell et Janez Lenarčič pour l'UE, co-organisateurs de la conférence, ont tous décrit les ravages de la guerre. Les mêmes chiffres, à chaque fois 27 millions de Soudanais ont besoin d'aide, dont 18 millions sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. Ce qui est revenu aussi, c'est le manque d'intérêt de la communauté internationale. Écoutez Stéphane Séjourné.
Les Soudanais sont aussi victimes de l'oubli et de l'indifférence, d'où nos initiatives également aujourd'hui, briser le silence qui entoure ce conflit et mobiliser l'ensemble de la communauté internationale pour que le monde regarde également, pour que le monde agisse.
L'action, c'est donc d'abord le financement et il y a urgence sur les 4 milliards d'euros nécessaires cette année selon l'ONU pour aider le Soudan. Seuls 5% ont pour le moment été récoltés. Dès l'ouverture de la réunion, plus de 840 millions d'euros ont donc été promis par les participants. Autre objectif, avancer sur le processus de paix et le retour à une transition civile. La présence des pays de la région aujourd'hui est donc une bonne chose, mais les initiatives sont trop nombreuses et en ordre dispersé, regrette Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères.
Nous rassemblons tous les acteurs dont les efforts de médiation sont réels, mais qui pour le moment n'ont pas abouti. On doit agir de concert, car ce n'est que comme cela qu'on parviendra à mettre la pression sur les belligérants et à obtenir des avancées.
Des belligérants. Des belligérants qui n'étaient pas invités à la réunion politique de ce matin, pas plus qu'aux rencontres avec les organisations internationales et non gouvernementales ou de la société civile prévues cet après-midi. Mais tous veulent croire que c'est déjà un grand pas.
Merci Gwendal Lavina. Dans la longue litanie de ces conflits catalyseurs de discours de haine et de nettoyage ethnique, l'affrontement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie occupe une place particulière. C'est ainsi qu'aujourd'hui, après des décennies de combats entre les deux voisins et rivaux du Caucase, une bataille juridique, cette fois-ci, va être lancée. 2 semaines d'audience au total devant la Cour internationale de justice à La Haye, au cours desquelles les avocats des deux parties vont faire valoir leurs interprétations du droit international.
C'est un procès historique. historique qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis en pleine campagne présidentielle.
Oui, dans quelques heures, Donald Trump deviendra le premier ex-président de l'histoire de son pays à faire face à la justice pénale. Le milliardaire républicain est favori de la prochaine course à la Maison-Blanche comparaître à Manhattan pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence d'une ancienne maîtresse, star du X, Stormy Daniels. Et c'est peu dire que les enjeux sont élevés, pas tant parce que Donald Trump risque en théorie une peine de prison. Cela ne l'empêchera pas, quoi qu'il en soit, d'être candidat au scrutin du 5 novembre. En revanche, le cas échéant, cela placerait la campagne dans une situation totalement inédite. Et s'il était déclaré non coupable, alors ce serait évidemment une victoire majeure pour le candidat républicain.
Vous écoutez France Culture, il est 12h40 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzet.
Il recouvre 70% de notre belle orange bleue et joue un rôle clé dans la régulation du climat mondial. Les océans ont absorbé depuis le début de l'ère industrielle 90% de l'excès de chaleur provoqué par l'activité humaine et plus généralement les milieux marins qui produisent près de la moitié de l'oxygène que nous respirons ont permis à la surface de la Terre de rester habitable. Sauf que l'augmentation vertigineuse de la température des océans alarme aujourd'hui les scientifiques, ce qu'ils ne manqueront certainement pas d'ailleurs de rappeler à l'ouverture aujourd'hui à Athènes de la conférence mondiale Notre Océan à laquelle participent 120 États et entités jusqu'à mercredi. Alors les océans sont-ils effectivement trop chauds? Avec quelles conséquences pour la planète? Peut-on encore arrêter le réchauffement des eaux? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Julie Dehaye, océanographe et directrice de recherche CNRS au laboratoire L'Océan. Bonjour madame.
Bonjour.
Cette conférence annuelle aborde toutes les questions donc liées aux océans, avec toutefois, s'agissant de cette édition, une attention particulière, je crois, portée à la fois sur le tourisme durable, le transport maritime, les microplastiques, car les océans sont en réalité le réceptacle de toutes sortes de pollutions. Peut-être, pour commencer, et au risque de nous faire un peu peur, pouvez-vous nous dresser un état des lieux ?
L'état des lieux, je crois que vous l'avez déjà fait. Je peux que rajouter des adjectifs sur nos émotions, en fait, face à ça. Nous, en tant que scientifiques, on est en train de mesurer des modifications catastrophiques des océans dont on ne se remettra pas, c'est-à-dire qu'on ne reviendra plus en arrière. Et ces catastrophes, c'est évidemment pour les écosystèmes dont nous dépendons aussi sur Terre, parce que les populations dépendent beaucoup des ressources des milieux marins. Et pour tout ce que, ben voilà, vous avez mentionné le tourisme, c'est vrai que c'est une activité importante économique et sociale. C'est toutes ces choses-là dont on aime profiter, dont nous sommes dépendants, qui sont en train de changer radicalement, très rapidement et de façon irrémédiable.
Je le disais, une menace donc se précise, celle du réchauffement des océans avec des températures records dans les eaux de surface mais aussi dans les profondeurs. Quelle est la réalité de ces canicules marines donc qui surprennent aujourd'hui les chercheurs par leur ampleur?
La réalité de ces canicules marines, c'est qu'on en a beaucoup parlé ponctuellement à chaque fois, l'été dernier, parce que pour nous c'est l'été où il fait le plus chaud dans l'hémisphère nord, mais tout au long de l'année 2023, on a décrit la survenue d'événements extrêmes avec en effet des températures plus chaudes de 4 à 5 degrés par rapport aux normales saisonnières. Mais ce qui est vraiment surprenant maintenant qu'on est en 2024 et qu'on peut faire le bilan sur toute l'année 2023, c'est que c'est à l'échelle globale que tous les océans ont été très chaud et beaucoup plus chaud que les prévisions qu'on pouvait en tirer en 2022 basées sur les observations de l'année 2022 et des précédentes. Autrement dit, il semblerait qu'il y a eu en 2023 une conjonction de plusieurs phénomènes qui se sont superposés, qui ont fait que les océans ont été mesurés encore plus chauds que ce à quoi on pouvait s'attendre. Encore une fois, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre juste au vu des, un peu l'équivalent des prédictions météo, on va dire, fin 2022. Il faut maintenant vraiment tenir compte des tendances lentes qui anime le changement du climat. Et quand plusieurs phénomènes se superposent, à la fin, c'est tous les océans, en global, pour toute l'année 2023, qui sont beaucoup plus chauds que ce à quoi on s'attendait.
Et quelles sont les conséquences de cette accumulation de chaleur? On sait que le milieu marin a la capacité de stocker le CO2. Est-ce que cela signifie que le risque existe, que les océans ne jouent plus à terme ce rôle de régulateur du climat?
Tout à fait. Alors ça, ce sont les conséquences à l'échelle globale. D'abord, à l'échelle locale, les conséquences, elles sont majeures pour les écosystèmes. On parle de tropicalisation des écosystèmes, et ça, c'est un terme qu'on utilise y compris à nos hautes latitudes, et aux très hautes latitudes où on observe de la baisse de la banquise, de la glace de mer. On a aussi l'acidification du milieu marin, donc on a beaucoup parlé avec les impacts sur les coraux. Mais en effet, à l'échelle globale, les vrais soucis, c'est ce rôle de captation de la chaleur et de CO2 par les océans, qui va être radicalement atténuée, voire complètement supprimée, à cause de cette hausse de température. En fait, les océans, il faut qu'ils puissent communiquer entre la surface et la profondeur. Et le fait de réchauffer comme ça la surface des océans, ça les empêche de pouvoir injecter de la chaleur et du CO2 en profondeur. Donc en fait, on s'attend, nous, scientifiques, océanographes, à un effet de rétroaction, de boule de neige, parce que les océans sont encore plus chauds, ils vont, dans les prochaines années, être encore plus chauds. Et il est important de rappeler aux auditeurs que dans le climat, l'océan, c'est le thermostat. En réalité, les océans fluctuent beaucoup moins dans leur température que l'atmosphère, par exemple. Et si là, les océans changent autant, alors c'est un signal très très fort que le climat est en train de changer beaucoup, très très vite, et qu'il est urgentissime de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
C'est bien compris. Merci Julie Dehaye, océanographe et directrice, je le rappelle, de recherche CNRS au laboratoire L'Océan, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Véronique Robérotte pour la préparation. À son jour des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron veut rassurer ce matin le chef de l'État, lançait symboliquement le compte à rebours des JO, l'occasion notamment d'évoquer la sécurité autour de la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine ou peut-être ailleurs. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour la première fois, ou à tout le moins jamais aussi clairement, le président a donc esquissé des alternatives, Rosalie, en cas de menace trop élevée.
Oui, des scénarios de repli, il y en a, on le sait, l'exécutif le dit depuis un moment déjà. Cette fois, le président entre dans quelques détails.
Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, il y a des plans B et même des plans C. Et on les prépare en parallèle. Et donc on a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple, voire qui rapatrierait dans le Stade de France, parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Mais ce n'est pas parce qu'on peut faire plus restreint ou déplacer la cérémonie qu'on doit. Pour Emmanuel Macron, la première idée reste celle d'ouvrir les Jeux le long de la Seine.
Oui, parce qu'on l'a préparé, parce qu'on s'est donné les moyens de le faire. On a des moyens de renseignement, d'intelligence, qui sont totalement mobilisés pour cette cérémonie d'ouverture. On va mettre en place tout un périmètre de sécurité des jours avant, où on va cribler tous les gens qui rentrent et qui sortent. On va répéter. Il y aura des systèmes de drones, de codage, de protection cyber. Cette cérémonie d'ouverture, c'est une première au monde. On peut le faire et on va le faire.
Devoir remodeler cette cérémonie, dont la dimension a déjà été revue à la baisse en nombre de spectateurs, en tout cas, serait un revers pour le président, qui la voit d'ailleurs, entre autres, cette cérémonie comme une réponse aux terroristes.
Ce que veulent avant tout les terroristes, c'est nous empêcher de rêver.
Pas de naïveté, de la lucidité, promet Emmanuel Macron à 3 mois d'un événement dont il espère tirer quelques bénéfices politiquement. Ces Jeux, dit l'Élysée, doivent redonner beaucoup de fierté aux Français, illustrer ce que nous sommes et ce dont nous sommes capables. La cérémonie d'ouverture en donnera le ton.
Merci Rosalie Lafarge. On a compris que le contexte sécuritaire suscite beaucoup d'inquiétude à son jour de la cérémonie d'ouverture, mais pas seulement, puisque réagissant au préavis de grève déposé par la CGT durant la période des JO, Emmanuel Macron a également dit ce matin avoir, je cite, confiance dans les syndicats, évoquant dans un sourire une trêve olympique. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
En l'occurrence, la trêve ne commencera pas aujourd'hui, puisque dès ce soir, Wafia, la CGT a choisi d'organiser une marche au flambeau dans la capitale.
Oui. Une mobilisation de salariés du public et du privé, place de l'Opéra, pour dénoncer le non-respect des droits sociaux, explique la CGT. Les mouvements ne font que commencer puisque mercredi dernier, la branche fonction publique du syndicat a déposé un préavis de grève qui démarre dès à présent et court sur toute la période des JO. Les agents peuvent donc organiser des mouvements sociaux à tout instant, comme l'explique Céline Verzelletti de la CGT fonction publique.
En effet, un certain nombre d'agents qui vont, eux, être mobilisés pour directement l'organisation des Jeux Olympiques, eh bien, s'ils ne sont pas à leur poste de travail, ça pourra perturber. Mais l'essentiel étant que nous, c'est pour ça qu'on a déposé le préavis de grève qui coule là à partir de maintenant, pour pouvoir régler, pour pouvoir obtenir gain de cause avant la tenue des Jeux Olympiques, justement.
La CGT l'assure, son objectif n'est pas de perturber les JO, comme l'a rappelé ce matin Sophie Binet chez nos confrères de France 2. Le syndicat a soutenu la candidature de la France. Pour la secrétaire générale, la charte sociale olympique, qui devait servir de garde-fou aux abus et aux accidents sur les chantiers, n'est pas respectée. Le syndicat demande donc l'ouverture de négociations pour parler des conditions de travail et plus concrètement des primes et de la prise en charge des gardes d'enfants des salariés réquisitionnés pour les JO. La CGT demande aussi une rémunération du chômage partiel à 100% pour les salariés contraints par l'événement de rester à la maison. Ce syndicat qui n'est pas le seul à se mobiliser, Thomas, puisque Force Ouvrière a aussi déposé des préavis.
Merci Wafia Kenich. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi marqué par le retour de la pluie. Des Pays de Loire aux Ardennes et sur le nord-est, partout ailleurs, en revanche, les éclaircies résisteront quant aux températures. Elles afficheront entre 12 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.